Vous êtes sur RTL.
En fait, si, comme vous le faites très bien, je ne trouve pas les mots en fait, vous l'affrontez, vous restez humble, et je pense, sans vouloir me tromper, que je suis sûr que quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas un service dédié à Jean-Pierre Pernaut, vous vous mêlez aux autres et vous partagez avec le lambda.
Ah oui, mais tout à fait. Ça, j'ai passé depuis 3 ou 4 mois, je passe des journées entières à l'hôpital Pompidou. Et je suis un client comme les autres, enfin un malade comme les autres. Merci de ce que vous dites. Moi, je l'avais ressenti beaucoup quand j'ai parlé de mon cancer de la prostate. J'avais été surpris par les milliers et les milliers de réactions de gens me disant merci, comme vous venez de le faire. J'avais été surpris. Et c'est vrai qu'il y a j'ai découvert à ce moment-là que des tas de gens à qui on dit vous avez un cancer de la prostate se sentent foutus dès que le médecin leur dit. Et moi, je dis mais non, attendez, on n'est pas foutus. Les médecins ils font des progrès considérables, on peut soigné. Donc j'en suis sorti de mon cancer de la prostate. J'ai été opéré, voilà. C'était à 3 ans. Bon, là, j'en ai un autre. Mais j'ai une autre chance dans la vie, c'est que j'ai une femme qui a été touchée par un cancer. Et je l'ai dit tout à l'heure, Nathalie, elle m'a toujours dit, il faut regarder le cancer en face pour mieux le combattre et utiliser notre notoriété pour que les gens arrêtent d'en avoir peur. Bien sûr, ce ne sont pas des maladies anodines, les cancers. Bien évidemment, c'est compliqué. Compliqué pour la famille aussi. Moi, j'ai de la chance d'avoir Nathalie qui a connu ça, donc c'est plus facile. Mais dans les familles, c'est difficile. C'est le regard des gens aussi. Quand j'ai dit j'ai un cancer du poumon, la plupart des gens que je croise me disent « Oh, merde !» Voilà. Alors que quand je disais que j'avais un cancer de la prostate, ils me disaient « Oh, bienvenue au club !» Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des cancers de la prostate qu'on n'ose pas. Mais le cancer du poumon fait peur aux gens. Ben, il faut pas. Si on a peur au départ, on se soignera moins bien. Il faut essayer de garder la pêche. Les médecins se battent pour faire progresser la recherche, faire progresser les traitements. Moi, je leur fais une confiance absolue. Et puis, bon, ben, ça va. Voilà, on va m'enlever mon cancer, j'espère. Si on ne m'enlève pas, ben, c'est pas grave. L'essentiel, on va tous mourir un jour, comme disait Bernard Tapie. L'essentiel, c'est que ce soit le plus tard possible.
Oui, mais bon, vous êtes jeune. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est dans 15 jours, 3 semaines, qu'on saura si la tumeur qui est attaquée par la radiothérapie a diminué ou a disparu.
Si elle a été vraiment grillée par la radiothérapie, ouais. Ça prend du temps, ça met du temps. Les cellules mettent quelques semaines à bosser pour savoir si ça grille ou pas. Puis après, il y aura éventuellement des traitements. Il y a des traitements de chimiothérapie. Maintenant, beaucoup, je ne sais pas ce que c'est exactement, parlent d'immunothérapie. Donc voilà, faire confiance aux médecins, se soigner, et puis surtout faire de la prévention, essayer de, quand on a une toux qui n'est pas normale, quand on sent qu'on est un petit peu fatigué, ne pas hésiter à aller voir les toubibs. Beaucoup de gens ont hésité pendant la période
du Covid. Alors ça, c'est intéressant.
Il faut aller voir des médecins.
Vous aviez une bronchite en revenant des sports d'hiver l'année dernière, hein, c'était au mois de janvier. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre signe ?
Rien.
Rien. Uniquement la bronchite.
La bronchite, en fait, n'avait rien à voir avec le cancer du poumon. Le problème de ces maladies, c'est que ça ne se sent pas. C'est pas douloureux. C'est comme les cancers de la prostate. Les gens, ils se réveillent 3 fois pour aller faire pipi la nuit. Ils se disent, bon, c'est pas grave, j'ai trop bu hier. Ben non, quand on se lève 3 fois pour aller faire pipi, il faut vite aller voir un urologue. Et c'est pas un drame d'aller voir un urologue. Il y a 6 hommes sur 10 qui, un jour ou l'autre, ont un cancer de la prostate. Alors autant le savoir et l'opérer.
Bon, vous m'avez fait peur avec les 3 fois la nuit. Il est 13h08. On va marquer une pause et évidemment, vous pouvez dialoguer avec Jean-Pierre Pernaut. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous. Il ne faut pas avoir peur du cancer. Jean-Pierre Pernaut est l'invité exceptionnel de RTL Midi et des auditeurs ont la parole. Venez discuter avec l'ancien présentateur du journal de 13h de TF1, comme Thierry, il y a quelques instants.
Jean-Pierre, je me permets au nom de sûrement de millions de personnes de vous dire merci. Merci parce que vous utilisez votre notoriété pour mettre en avant cette maladie qui est souvent un sujet tabou.
Et Jean-Pierre, dans votre vidéo postée la semaine dernière sur Twitter, une phrase avait retenu l'attention des auditeurs et des auditrices.
Pour le poumon, j'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter.
Alors dites-nous au 3210, êtes-vous aussi en train de combattre la maladie ? Avez-vous déjà gagné ce combat ? Êtes-vous en train d'arrêter de fumer ? Le professeur David Kayat était venu nous parler des conséquences de la cigarette dans RTL Midi.
Le tabac, c'est 30% des cancers quand même. Et c'est le cancer du poumon, de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de la vésicule biliaire, du pancréas, de la vessie. Donc on parle de beaucoup de cancers. 30% des cancers sont dus à ça. Et il faut savoir que quand vous arrêtez de fumer, au bout d'un peu moins d'une dizaine d'années, vous rejoignez le pronostic, c'est-à-dire l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a pas fumé.
Le cancer est-il encore un sujet tabou ? 3210, 3210.
Vous êtes très nombreux, je le sais, à nous appeler et à vouloir échanger avec Jean-Pierre Pernaut. Pascaline est avec nous. Bonjour Pascaline.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous, d'autant que vous souffrez vous-même d'un cancer.
Oui, et j'aurais voulu remercier Monsieur Pernaut. Je l'ai suivi dans ses journaux télévisés pendant des années et des années. Et donc, voilà, nous, on est des inconnus. Et c'est vrai que c'est très agréable que les personnes qui ont une notoriété soient là pour nous sortir un peu de l'anonymat. Parce que moi, j'ai un cancer, ce sont des tumeurs neuro-endocrines, tumeurs rares, cancers rares. Et bien sûr, beaucoup de gens qui cherchent autour de nous, qui nous aident, des associations de patients, comme l'APTED, qui sont là pour nous aider. Parce que c'est compliqué quand on a un cancer, et en plus qu'il est rare, ça cumule, quoi. Et de ce fait, tout devient compliqué. On arrive chez un médecin, il sait pas ce qu'on a. On arrive au CHU parce que, comme ça m'est arrivé hier soir, parce que j'ai une cholécystite aiguë. Mais il faut expliquer toute notre histoire, il faut tout commenter. Je pense que ça doit être pareil aussi pour toutes les maladies rares. C'est très, 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 très difficile. Mais c'est pas un problème, finalement. Comme le dit Bernard Tapie, comme le dit Monsieur Pernaut, on est entouré finalement, nous, de plein de gens qui savent faire autour de nous pour essayer de trouver, pour essayer de nous aider, pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même incroyable, ces tumeurs neuroendocrines. Je ne suis pas la seule dans le monde, hein, il y en a quand même beaucoup dans le monde. Moi, je suis actrice de ma maladie, je me suis pas laissée abattre, hein, je fais du sport. Surtout, je suis en réunion à Cochin, en réunion partout où il y a des informations sur cette maladie, et j'essaie de par mon appel aujourd'hui de la faire connaître, parce que c'est vraiment compliqué.
Oui. Jean-Pierre. Très compliqué. Vous avez raison, Pascaline. D'abord, votre cancer, c'est vrai, je ne le connais pas du tout, et ça permet de dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas un cancer, il y a des cancers.
Voilà.
Et chaque cancer est une maladie complètement différente, même
exactement,
sur chaque malade. Et vous avez raison de vous dire que c'est important de se bagarrer, même quand les gens ne la connaissent pas, votre cancer. Moi, je ne le connais pas, donc je ne sais pas, je ne peux pas savoir comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'il est important de regarder, c'est ce que m'a toujours dit ma femme, regardons les choses en face.
Exactement, puis l'accepter.
L'accepter
pas tout de suite, parce qu'on a un temps de recul.
Ouais.
Mais quand on l'a accepté et qu'on combat, eh bien, ça fait 9 ans que je tiens. Et j'ai pas l'intention de m'arrêter là du tout, hein. Alors là, au contraire.
Moi non plus, j'ai pas l'intention de s'arrêter.
Non. Il y a des enfants derrière, il y a une famille, il y a plein de super choses à pas rater, donc il faut s'accrocher, quoi.
Il faut arrêter de considérer les cancers comme des maladies honteuses.
Voilà.
Ce ne sont pas des maladies honteuses, c'est pas contagieux.
De nous stigmatiser.
On
voilà.
peut se faire des bises, on attrapera le Covid, on attrapera la grippe, on attrapera tout, mais pas le cancer.
Mais pas le cancer,
vous
voilà.
Vous dites honteuse, mais la difficulté, notamment quand on est dans un univers professionnel, on peut avoir peur que la société professionnelle ne vous regarde pas de la même manière.
Ah ben oui, moi ça m'a coûté mon travail, hein, ça c'est clair.
À beaucoup de gens et à trop de gens.
Voilà,
c'est ça qui est difficile, parce qu'on a le sentiment, peut-être que si on le dit, celui avec qui on travaille va penser qu'on est moins performant, qu'on sera moins disponible, etc., etc. Pourquoi vous dites que ça vous a coûté votre travail, Pascaline ?
Eh ben parce que ça m'est arrivé, j'avais 55 ans, et au bout de 2 ans, mon employeur m'a licencié, quoi. Voilà, donc, pour aptitude.
Et il savait que vous aviez un cancer ?
Ah bah oui, bien sûr.
Et
oui.
Comment il a justifié cela ?
Bah, inaptitude au travail du fait de mon invalidité, parce que ma chirurgie a été très lourde pour que je sois là pour vous parler. Donc la chirurgie a été impressionnante, mais Mais je vais bien, quoi.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous pouviez continuer de travailler.
Mais oui, au bout d'un laps de temps, j'aurais très bien pu être aussi efficace que je suis bien là sûr. Pour vous parler.
Et le travail, on sait que moralement, c'est très important de,
c'est
de
ça
poursuivre.
Il faut faire comprendre.
Et on en a besoin.
Mais là, je prenais tout à l'heure l'exemple du cancer du sein. Pendant des années, les femmes les cachaient.
Oui.
Et personne n'en parlait. Du coup, les cancers du sein avaient explosé partout en France et dans le monde. Et quand enfin on a réussi à en parler, ça a réussi à faire passer ça comme une maladie qu'on soigne beaucoup dans la plupart des cas. Tous les cancers, c'est la même chose. Alors, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, il y en a qui sont plus difficiles à gérer que d'autres, il y en a qui ont des effets différents. Mais tous les cancers, les médecins font des progrès, il faut leur rendre hommage vraiment.
Qui
font des progrès contre les cancers. Et aux infirmières dans les hôpitaux qui n'ont pas tous les moyens, mais c'est génial.
Et il y a des groupes de recherche vraiment, vraiment fantastiques.
Yes.
Au niveau de la recherche sur les tumeurs, enfin, pour ce qui me concerne, neuroendocrine, il y a des gens fantastiques qui mettent des efforts, mais énormes, et des traitements énormes, parce que c'est une maladie super compliquée.
J'imagine, Pascaline.
Une infinité de traitements, c'est incroyable, quoi.
J'imagine. Merci en tout cas de votre témoignage.
Merci à vous. Merci à vous d'avoir pris mon appel. C'était gentil. Et puis, bon courage.
À vous aussi.
Merci de votre bienveillance, merci de votre énergie, merci de votre courage et merci de les mots que vous avez dit à l'antenne. On va marquer une nouvelle pause et nous revenons à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a Laurent Marsic qui est là et je le salue parce que c'est le journaliste TV d'RTL. J'ai un scoop pour vous, monsieur Marsic. J'ai un vrai scoop, c'est monsieur Pernaud qui va le donner. Tiens, le scoop. Jean-Pierre.
J'ai la grande joie. On peut être malade, avoir une maladie et continuer à vivre et faire plein de choses. J'ai la joie immense et la fierté d'avoir été sollicité par le comité Miss France et par Sylvie Tellier pour être président du jury de la prochaine élection de Miss France qui aura lieu à Caen le 11 décembre.
Donc c'est vous qui serez le président le 11 décembre, samedi 11 décembre.
Oui, je serai avec Amel Bent, Inès Reg, Delphine Vespizer, Miss France 2012, François Allu, le danseur de Danse avec les Stars, Philippe Lachaud, le comédien, et puis Ahmed Silla, que j'aime beaucoup.
Et évidemment, c'est Jean-Pierre Foucault qui présentera.
Bien sûr, comme ça, si Vitalis ne comprend pas, elle aura deux Jean-Pierre.
Voilà, pour la quantième année, je ne sais pas, Jean-Pierre, ça fait plus de 20 ans.
Foucault, ça fait 25 ans à peu près.
Qu'il présente cette cérémonie. Nous sommes avec Véronique. Bonjour Véronique. Qui habite Le Mans.
Bonjour Pascal, bonjour Jean-Pierre.
Merci Véronique. Bonjour. Et vous souhaitiez échanger avec Jean-Pierre?
Oui, écoutez, moi je le suis depuis des années, j'adore ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, et on retrouve sa positivité, on retrouve son allant, et donc et je pense sincèrement qu'il va s'en sortir. Bon, moi j'ai été très proche du milieu médical, mariée à un médecin pendant 18 ans, et j'ai travaillé un peu en tant que sophrologue auprès d'oncologues, et tous sont unanimes, quand une personne a le moral et a envie de s'en sortir, c'est déjà 60% de la guérison.
Oui, c'est ce que tous les médecins me disent. Et ce que m'a dit Nathalie, même chose, quand elle était à Villejuif. Elle avait moins de 30 ans, Miss France, dauphine de Miss Monde, à Villejuif, sans les cheveux, amaigrie, mais gardant la pêche, allant remonter le moral des gens, et puis écrivant un livre, Le cancer en face. Là, elle vient d'en écrire un autre, d'ailleurs, qui s'appelle Moi, j'y crois, où elle parle de ses relations avec les anges et avec ses rêves prémonitoires. Par exemple, elle avait fait un rêve m'annonçant mon cancer. Mais bon, Nathalie, elle est comme ça. Donc elle est...
Le deuxième ou le premier?
Le premier, les deux, mon capitaine.
Elle a fait deux rêves pour vous annoncer à chaque fois
Nathalie
le cancer.
Nathalie a des rêves prémonitoires. Ouais. Je peux confirmer que il m'arrivait un accident à cause du tabac. Et le lendemain, j'apprenais que ce que j'avais était cancéreux.
Oui, je connais les rêves prémonitoires, effectivement. Moi, dans ma famille, on m'appelait la sorcière. Gentille sorcière.
Mais oui, c'est gentil, ma femme est gentille. Son livre, il est édité chez Très Daniel, elle raconte tout ça, c'est étonnant.
Ah oui. Non, mais c'est sûr. Hein, Et alors, par contre, effectivement, bravo d'utiliser votre nom pour positiver et pour... Effectivement, il y a des tas de cancers qui soignent. Il y a des tas, beaucoup d'enfants qui naissent avec des leucémies et qui s'en sortent très bien.
Oui.
Beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein et qui s'en sortent très bien. Donc, voilà. Mais on a beaucoup, effectivement, médiatisé les cancers cancer en disant attention, maladie fatale, etc. Absolument pas. Il y a beaucoup plus de gens, à mon avis, qui meurent de problèmes cardiaques, d'infarctus, de choses comme ça, que de cancer. Donc, comme disait le médecin, ça n'est pas que le tabac. Donc, Jean-Pierre, ne vous flagellez pas. Ça n'est pas que le tabac.
Non, mais un petit peu quand même.
En plus, il fumait dans les conférences de rédaction, je peux vous le dire.
C'est évident que le tabac a un rôle.
N'aide pas, mais vous avez des gens qui fument 2 paquets par jour et qui vivent jusqu'à 90 ans.
Disais avant. Parce qu'on connaît tous une grand-mère qui continue à fumer et qui va très bien. On connaît tous des gens qui ont eu des cancers et qui n'ont jamais fumé de leur vie. Ouais. C'est évident.
Ouais, mais ça n'aide pas.
Comme le disent tous les médecins et le constatent tous les médecins, c'est quand même un tiers des cancers du poumon. Oui.
Vous avez raison, David Kayat le disait l'autre jour, 93% des gens qui fument ne vont pas développer de maladie liée au tabac.
Oui, 93%.
Donc, mais il n'empêche que le message de Jean-Pierre, il faut l'écouter. Il faut effectivement arrêter de fumer autant que faire se peut.
J'ai une petite info à ce sujet. J'ai fumé pendant 50 ans presque 2 paquets par jour, pensant qu'il était impossible pour moi d'arrêter de fumer. J'avais déjà arrêté il y a quelques années et j'ai recommencé à cause d'une campagne anti-tabac. Vous savez, quand on montre des gens qui écrasent des clopes à la télévision tout le temps, je me souviens, j'avais arrêté de fumer depuis 4 mois, je suis redescendu au tabac, acheter des clopes. La campagne anti-tabac, quand je vois interdit 2, j'ai envie d'aller à l'encontre. Et puis quand je vois qu'on écrase des clopes, ça me donne envie de fumer. Donc il ne faut pas en parler du tabac. Là, j'ai arrêté de fumer d'un jour à l'autre. Le sourire du chirurgien me disant... Monsieur Pernon, je vais vous opérer, mais arrêtez de fumer. Ne fumez pas d'ici là, parce que il y a des petits risques d'infection pulmonaire si on opère un fumeur. Ok, madame, merci. Elle m'a pas sur un ton péremptoire, interdit de fumer, machin, c'est pas bien, etc. Non, elle m'a juste un petit sourire. J'ai pas refumé une cigarette depuis ce jour-là et j'en ai jamais senti le besoin de refumer. C'est-à-dire que les effets de l'arrêt de la cigarette, il n'y a eu aucun effet sur moi. J'ai arrêté de fumer
Mais c'est dire si la peur, dans ces cas-là, que vous avez eue, qu'on devine, parce que tous les gens qui ont un cancer du poumon disent la même chose. Ils fumaient depuis 50 ans, ils s'arrêtent net. C'est-à-dire que la trouille est tellement importante et le désir de vivre tellement fort que là, on arrête tout de suite.
Donc autant essayer d'arrêter avant.
Effectivement. Il est 13h24, on marque une nouvelle pause peut-être. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jean-Pierre Pernaut est avec nous. Une chose qui est importante, c'est comment détecter le cancer. Et vous, j'ai envie de dire, ça a quand même été quasiment un hasard. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a sauvé. Parce que vous aviez une bronchite. Donc, à cause de cette bronchite, vous avez fait quelques examens. Et on s'est aperçu que vous aviez un cancer qui était sans doute... petit.
Débutant.
Débutant. Mais ce qui est terrible pour ce cancer du poumon, ce qui est vrai aussi pour le pancréas, c'est qu'il n'y a aucun signe avant-coureur.
Non, il n'y a pas de signe. Ça fait pas mal, un cancer. Oui. Quand on a mal à la poitrine, on n'a pas de cancer, forcément, parce que on a une côte cassée ou on a un
problème musculaire. Mais généralement, par exemple, le cancer du poumon, c'est quand on commence à cracher du sang. Vous n'avez jamais craché de sang.
Non, alors quand on crache du sang, généralement, il est tard déjà. Donc,
David Kayat l'autre jour.
Il y a encore des traitements, bien évidemment. Les médecins continuent à se battre pour ça. Moi, la première tumeur était minuscule, on l'a enlevée par chirurgie. La deuxième, en un mois, a décuplé de volume.
C'est-à-dire que quand vous faites opérer, la deuxième tumeur n'existe pas ?
Non. Elle est minuscule, elle fait 2 mm. Donc on ne sait pas encore si on va faire quelque chose ou pas, ou si on va laisser vivre sa vie. Et en fait, à la sortie de l'hôpital, à la sortie de ma convalescence, de ma première chirurgie, on a remarqué que c'était un peu gros, donc il fallait tenter la radiothérapie.
Mais ces deux tumeurs sont liées ? Sont indépendantes.
Sans doute, on pense qu'elles peuvent être liées, mais je ne sais pas si elles sont indépendantes.
Mais elles sont à deux endroits différents du poumon.
Deux endroits totalement différents, oui. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. En fait, il y a deux petites tumeurs.
Vous posez des questions sans arrêt quand on apprend qu'on a un cancer au médecin ou vous vous laissez guider ?
Non, je me laisse complètement guider. J'ai eu la chance, je vous l'ai dit, d'être soigné à l'hôpital Pompidou dans des services remarquables de chirurgie thoracique ou d'oncologie. J'y connais rien. Donc je les suis, de temps en temps je passe un coup de fil à ma fille qui est médecin pour lui demander un renseignement, ça veut dire quoi, donc elle me rassure aussi. Nathalie, elle connaît pas mal les problèmes de de santé, elle m'aide aussi à positiver les choses, donc c'est bien.
Entre le moment où vous entrez à Pompidou pour l'opération et le moment où vous sortez, il se passe combien de temps ?
Je suis rentré le 4 juillet après avoir passé 4 jours en vacances dans le midi. Je savais que ce seraient mes seules vacances de l'été, donc Nathalie m'a traîné dans le midi pour aller manger quelques petits poissons grillés au bord de l'eau. On a fait plein de photos comme ça, elle a publié les photos tout le mois de juillet, comme ça les paparazzi croyaient que j'étais en vacances, mais j'étais tranquillement dans ma chambre d'hôpital. J'ai été opéré le 5 juillet, je suis sorti le 18 juillet, J'ai regardé la cérémonie du 14 juillet à la télé.
Et là, vous êtes très fatigué ?
Là, je suis fatigué par la radiothérapie. La radiothérapie, les effets de la radiothérapie sont fatigants parce que ça travaille beaucoup, ça fait travailler beaucoup les cellules. Enfin, j'y connais rien, mais ça bosse. Donc, je suis fatigant, oui.
Et quand vous ressortez, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une petite rééducation. Mais aujourd'hui, par exemple, physiquement, vous ne faites pas de sport ?
Non, je fais pas de sport. Je fais pas de sport. Alors, les médecins me disent, allez, Jean-Pierre, fais quelque chose. Fais du vélo, mais j'aime pas le vélo. Fais de la marche à pied. Pour l'instant, je suis un peu essoufflé, donc je vais attendre de me remettre un peu de la radiothérapie pour relancer tout ça.
Et sur l'alimentation, il n'y a pas de changement ?
Rien.
Vous pouvez manger ce que vous
rien
voulez.
Rien du tout.
Déjeuner, dîner, vous n'avez pas perdu un kilo, manifestement.
Non, j'en ai pris 3. Le tabac.
Nadia est avec nous. Bonjour, Nadia.
Bonjour, Pascal.
Vous habitez la Loire-Atlantique.
Tout à fait.
Et votre témoignage va être intéressant sans doute puisque votre mari souffre d'un cancer du poumon.
Exactement. Donc le 16 août, il se sentait pas bien. Nous avons été chez notre médecin traitant. Notre médecin traitant nous a fait faire des analyses. Et il a été à l'hôpital parce qu'il se sentait pas bien. Donc à l'hôpital, donc à Châteaubriant, on lui a fait plein d'analyses. Et le 14 septembre, on nous a annoncé qu'il avait un cancer des poumons. Un cancer foudroyant, métastatique, qui vient des poumons et qu'il avait plus que 2 mois à vivre. Donc c'était très dur à accepter, que ce soit moi ou mon mari. Ensuite, on nous a dit, on va le mettre en soins de suite pour qu'il reprenne quelques kilos, afin qu'il ait une chimio de complaisance pour qu'il dure quelques mois de plus. Donc j'ai parlementé avec mon mari, on l'a fait. Au bout d'un mois, donc le 14 octobre, il a eu un scanner scintigraphique. Et là, on nous a annoncé qu'en fin de compte, le cancer du poumon s'était stabilisé qu'au poumon. Ça n'avait pas été ailleurs. Donc, entre guillemets, une joie quand même, parce que il avait plus de deux mois à vivre. Donc, on a commencé la chimio jeudi, ça fera 15 jours jeudi. Il a pour l'instant 3 séances de chimio cette année, séparées de 21 jours. Il en aura 3 autres l'année prochaine, suivies d'une radiothérapie. Voilà.
Faut jamais croire. Quand on vous dit, il en a pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pense qu'il faut jamais croire ça. Je pense qu'il faut toujours se bagarrer,
oui. Garder
la tête haute et se bagarrer la tête comme l'a fait votre mari, en regardant la maladie en face. Et puis on se soigne. Et puis, parliez de chimiothérapie de complaisance. Je pense pas que les médecins fassent des chimiothérapies de complaisance. Quand ils lancent une chimio, c'est parce qu'ils espèrent bien que ça va être utile. Et puis, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc il faut se dire, il y a un peu notre bonne étoile derrière à chacun. Donc il faut toujours garder la tête haute, regarder le cancer en face, celui qu'on a. Il est peut-être grave, bien sûr, c'est pas une maladie anodine. Quand je dis il faut pas avoir peur du cancer, je blague en disant ça, mais c'est pour garder un petit peu le sourire. Il faut bien évidemment prendre ces maladies très au sérieux. Mais là, votre mari est sur la bonne voie. Puis après la chimio, maintenant, on parle beaucoup de l'immunothérapie. Je sais pas ce que c'est, mais il paraît que c'est miraculeux.
Excusez-moi, bonjour Jean-Pierre, je vous ai pas dit bonjour, excusez-moi.
Bonjour, Nadia, je vous ai écouté passionnément.
Ce que je trouve absolument incroyable, Nadia, c'est qu'un médecin disent à un patient, vous n'en avez plus que pour 2 mois à vivre. Je suis sidéré de ça.
Deux médecins nous ont dit ça.
Mais vous étiez présente quand
on... Oui, j'étais présente. C'était le 14 septembre.
Et c'est dit tel que je le dis là. C'est-à-dire que vous avez un médecin qui vous dit, monsieur, il vous reste 2 mois à vivre.
Oui, parce que le premier, donc l'oncologue nous a dit, ils ont pris des phrases en disant, mon mari, vous avez un cancer des poumons, mais c'est pas joli. Alors mon mari lui a dit, c'est un cancer généralisé. Elle lui a dit, oui, il vous reste 2-3 mois à vivre. Et un autre médecin qui est venu le soir nous a dit, oui, effectivement, il reste 2 mois à vivre. Voilà.
Mais malgré ça, il faut continuer à se battre. Et vous faites la preuve.
Oui,
j'imagine qu'il faut se bagarrer.
Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'hôpital de Châteaubriant, chapeau bas. Ils ont été en soins de suite, mais même maintenant, parce que là, il a eu sa première chimio, il a eu à Godouchot à Nantes, et là, il est suivi à Châteaubriant. Ils ont été extraordinaires.
Ils font un boulot formidable dans les hôpitaux.
Ah oui, ils sont vraiment aux soins de suite à Châteaubriant, je peux vous jurer. Ils ont été formidables. Ils étaient assez soins. Enfin bon, ça a été vraiment formidable. C'est ça qui nous a fait tenir, parce que effectivement, ça a été très, très, très dur.
Sur le thème, Pascal, de faut-il dire la vérité à un malade quand un malade est condamné. Ça me rappelle le livre que vient d'écrire mon ami Dominique Lagroux-Sampère, qui a écrit un livre qui s'appelle « Après l'orage », qui est édité chez Flammarion. Son mari, Claude Sampère, est mort d'un cancer il y a deux ans. Et Dominique a écrit ce livre pour raconter tout ce qu'elle a vécu. Et y compris en disant la vérité au malade, à son mari. Est-ce que, voilà, à un moment, il sentait lui-même qu'il allait partir? Il faut dire la vérité aux gens, il faut dire la vérité aux enfants, comment le prendre, etc.
Il y a peut-être un moment le dire, c'est-à-dire que quand vous entrez à l'hôpital dire, là, et que 24 heures après...
Oui, ça, c'est pas bien.
Que vous passez d'un état où tout va bien, où on
mais
vous dit
si
vous n'en
avez... Si vous avez des soucis et que vous voulez retrouver la pêche, oui. Foncez vite à la librairie, achetez le bouquin de Dominique Lagrou-Sempère.
Qui a été votre rédactrice en chef du Trésor.
Animatrice avec moi d'Au cœur des régions, oui. Du plus beau marché, qui a une empathie extraordinaire pour les gens, et qui, son livre, il est merveilleux, il redonne la pêche, parce qu'elle a vécu un cauchemar, l'orage, la mort de son mari, alors qu'elle avait deux enfants pas très âgés, et puis... Elle dit toujours qu'après l'orage, il y a un rayon de soleil et qu'on peut retrouver l'amour notamment. Donc son livre, il est remarquable.
Bon, on va marquer une dernière pause. Il nous restera un témoignage, celui de François. Vous restez encore quelques minutes avec nous, Jean-Pierre Pernaut. J'en profite pour vous montrer à la caméra, parce que vous savez désormais que la radio s'est filmée. Au ben cœur oui. des régions, le News Magazine de Jean-Pierre Pernaut, les déserts médicaux, la France qui brille, nos sublimes capitales de l'artisanat, les ruraux exclus des villes.
Oui, c'est un magazine de défense des régions où on râle avec les gens des régions quand les gens des villes leur imposent des choses idiotes.
Bon, vous avez vu qu'il y a des loups, hein, désormais. Je pense que vous auriez peut-être ouvert par les loups. Quoi, vous auriez ouvert par le Covid, forcément, aujourd'hui. Oui. Et vous auriez fait un reportage sur les loups.
Ben oui, il y en a un, on parle des loups. C'est vrai que les citadins aiment bien les loups, mais il n'y en a pas dans le métro jusqu'à présent.
Jean-Pierre Pernaut, les loups sont entrés dans Paris. Il a présenté son dernier trésor, c'était le 18 décembre. C'était il y a quasiment... un an, et vous regardez votre...
Oui, je regarde de temps en temps, moins souvent, parce que c'est l'heure du déjeuner, maintenant.
Et un petit pincement au cœur?
Non, pas du tout.
Vous trouvez qu'elle se débrouille bien, elle est bien sur les rails du trésor?
Surtout, sur la même ligne, avec des correspondants en région qui sont formidables, on raconte la vie des gens, c'est ça l'essentiel.
13h35, un dernier témoignage, on ira voir monsieur Facebook, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je remercie vraiment beaucoup Jean-Pierre de rester avec nous et de pouvoir dialoguer avec les auditeurs. François est là. Bonjour François.
Bonjour Pascal. Bonjour,
vous vouliez témoigner sur un cancer que vous avez eu.
Oui, voilà. Moi j'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai eu un cancer du cerveau quand j'avais 7 ans et demi. Et ce qui m'a peut-être sauvé, j'imagine en tout cas, c'est le fait d'être insouciant à cette époque-là. Donc je pense que c'est ce qui a pu m'aider à me reconstruire après. J'ai été entre guillemets tranquille vers l'âge de 12 ans et j'avais une rémission d'une quinzaine d'années à peu près. Et il y a 4 ans maintenant, lors d'un bilan annuel que j'ai encore aujourd'hui, on m'a annoncé voilà qu'on était entre guillemets jamais totalement guéri. Donc ça a été un petit peu un coup de massue pour moi parce que je pensais être un peu plus tranquille à l'approche de mes 30 ans, et ça n'était pas le cas. Donc on avance, et c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collaborateur, on garde la pêche, on pense à des gens comme Jean-Pierre qui nous aident justement à garder le sourire, et on se dit qu'il y a sans doute pire que nous dans la vie. Il y a des enfants qui ne sortiront jamais des hôpitaux, qui n'auront jamais la chance qu'on a d'être sur nos deux jambes libres, heureux de vivre. Donc voilà, faut toujours se dire qu'il y a pire que soi, et puis garder le moral et se dire qu'on va s'en sortir, bien sûr.
C'est formidable ce que vous dites. Oui, on va s'en sortir. Ben oui, c'est ce qu'on se dit tous. Hein. On a envie de. C'est pour ça que c'est important d'en parler dans cette émission, d'en parler ailleurs. Voilà, dès qu'on peut parler de ça, oui, on va s'en sortir. Oui, on va se bagarrer. Cancer du cerveau, c'est vrai, c'est pas drôle. J'ai un copain qui en a eu un. C'est compliqué. C'est compliqué, mais il s'en est sorti
très,
aussi.
Très heureux de vous entendre, Monsieur Pernaut, vraiment.
Et il s'en est sorti aussi de son cancer du cerveau, mon copain.
Et ben, vous allez vous en sortir du vôtre, ça j'en suis certain, parce que vous êtes un homme exceptionnel et je suis très heureux de pouvoir vous le dire.
Oh, c'est pas parce que je suis exceptionnel que je vais m'en sortir, les médecins sont exceptionnels.
Du coup, bien sûr, mais vous avez ce courage-là, et on dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande femme, et je sais que votre épouse vous aide énormément, vos enfants aussi. Et vous avez cette chance-là, mais je vous souhaite que le meilleur, et vous avez une bonne étoile, elle sera avec vous encore une fois, il n'y a pas de souci, j'en suis certain.
C'est très gentil, mais il faut vraiment me rendre... Il faut dire aux gens le message que je redisais tout à l'heure, je le répète pour ceux qui n'étaient pas encore à l'antenne. Ne pas se considérer mort quand un médecin vous dit vous avez un cancer. Il y a plein de cancers, il y a plein de manières de les soigner, il y a de plus en plus de manières de les soigner, il y a des progrès considérables tout le temps. Il ne faut pas faire attention au regard des autres. quand quelqu'un vous dit que vous avez un cancer et qu'on vous regarde comme si vous étiez déjà mort. Moi, il y a plein de gens qui m'ont enterré. Depuis le mois de mai, il y a plein de gens qui m'ont déjà enterré en me disant « Ah, mon pauvre monsieur !» Ben non, je n'ai pas du tout l'intention. Pas tout de suite.
Ben non.
On verra bien.
Mais bon.
Merci à François. On va conclure avec Jean-Pierre. Il y a deux messages que je retiens principaux. D'abord, arrêter de fumer. Ça, c'est la première chose. Même si c'est difficile à entendre pour ceux qui sont en train de fumer. Et la phrase que vous dites dans votre vidéo est terrible. On a toujours l'impression que ça arrive aux autres. C'est ça
arrive
ça,
qu'aux
la
autres. Voilà. Ça n'arrive qu'aux autres. Ben non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Ça arrive à tout le monde.
Et puis la deuxième chose que je retiens de tout ce que vous avez dit, c'est la présence de Nathalie.
Oui.
Voilà, c'est ça que je retiens, parce que cette présence-là qui vous aide, on parle d'ailleurs pas souvent des aidants, de ceux
les
qui aidants, accompagnent.
Les familles dans voilà. ce type de maladie sont tellement importants.
Oui, oui.
C'est tellement important d'avoir à la maison quelqu'un qui a la pêche et qui m'aide à garder la pêche et qui m'engueule quand par hasard, à un moment, je perdrai le moral. Mm. J'ai pas le droit de perdre le moral avec Nathalie. Elle a subi tellement de choses, elle, que c'est pas grave ce que j'ai.
Mais vous êtes plutôt un batailleur, de toute façon. Vous êtes plutôt un combattant. Vous n'êtes pas soumis à au coup de cafard en permanence,
non.
En tout cas.
Non,
ça
parce
peut
que
arriver,
beaucoup,
j'imagine, mais vous êtes plutôt un combattant.
Parce que je bosse beaucoup entre mon émission tous les vendredis sur LCI, que j'ai jamais arrêté.
Et vous
l'argent.
Extériorisez généralement les choses. Vous ne gardez pas pour vous quand il y a une colère à faire.
Non, j'ai des colères. J'ai des coups de gueule dans mon magazine de presse écrite au cœur des régions.
Donc,
j'aime bien le patrimoine des régions. Je tourne quelques magazines dans l'année avec Thierry Tuilier qui m'a confié ça l'année dernière. On va en refaire sans doute l'année prochaine. Donc voilà. De garder une activité, j'ai la chance de garder une activité malgré ma retraite entre guillemets du 13h. Je bosse beaucoup, mon métier me passionne toujours autant. Et j'ai la chance, c'est vrai, d'avoir une femme exceptionnelle.
Ben merci vraiment Jean-Pierre. Et moi, comme je vous ai connu à l'âge de 23 ans, je suis arrivé à TF1. Vous étiez une grosse vedette comme d'autres à l'époque.
J'étais déjà un vieux meuble.
C'est vrai, et je peux que rapporter la bienveillance, la gentillesse et l'écoute dont vous avez toujours manifesté avec toute la rédaction qui
et
vous
l'amour
aimait.
Du football.
Et l'amour du football, non. Même pas le foot. Il prenait jamais de sujet foot. Mais c'est pas grave, c'est vrai que vous aviez un lien très fort avec les gens de TF1 dans une période qui était dorée pour cette antenne, bien évidemment. Mais les gens vous aimaient tout simplement et aimaient travailler avec vous durant toutes ces années-là.
C'est gentil.
Et c'était un plaisir. Et les correspondants, et puis vous avez inventé quand même, c'est pas si fréquent à la télévision, vous avez inventé un format qui perdure d'ailleurs au-delà de vous, puisque aujourd'hui la présentatrice est sur vos rails et ça marche toujours bien.
Marie-Sophie Lacaro.
Exactement. Et ce regard que vous avez notamment sur la France des régions que caricature de temps en temps notre ami Laurent Gérard, bien évidemment. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Merci vraiment Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Un mot de Monsieur Facebook, parce que j'imagine qu'il y a plein de témoignages sur Jean-Pierre.
Il y a plein de témoignages, bien sûr. Et je vais juste signifier à Jean-Pierre que c'est normal s'il ne me voit pas. J'interviens depuis la régie, Pascal. Vous
voilà,
pouvez
alors,
intervenir
je vous présente Olivier, qui est promis à une grande carrière. Mais pour le moment, il est effectivement derrière, derrière la vitre.
Dans l'arrière-boutique,
vous
exactement.
Vous le montrez quand ? Vous ne le montrez jamais.
Mais si. Non, je rentre jamais.
Mais il est étrange. Il va nous parler de son week-end, parce que chaque lundi, il nous fait des confidences sur sa vie privée.
Vous voulez savoir maintenant, Pascal ?
Non, vous le direz tout à l'heure.
Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, allez, on y va. José nous écrit sur nos réseaux sociaux. Si Monsieur Pernaud a besoin d'en parler, il a raison de le faire. Le soutien de l'entourage est aussi très important. Axel, toujours sur notre page Facebook. Je suis sûr que le témoignage de Jean-Pierre Pernaud aide beaucoup de malades. Et on termine avec Sonia. Je suis atteinte d'un cancer et entendre Jean-Pierre en parler, c'est rassurant.
Eh ben, c'était vraiment très intéressant pendant trois quarts d'heure. Merci encore Jean-Pierre. On va parler d'Éric Zemmour dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Alerte polémique pour Éric Zemmour. Une visite à Marseille mouvementée pour le polémiste qui a échangé un doigt d'honneur avec une passante. La photo a tourné sur les réseaux sociaux et fait réagir la classe politique comme Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, était l'invité de RTL ce matin.
Ça fait longtemps qu'il est disqualifié pour la présidentielle. Un candidat ou prétendu candidat qui est condamné pour haine raciale. Je veux dire, le doigt d'honneur, ça fait des mois qu'il le fait à la France. Ça fait deux mois qu'il le fait aux valeurs de la République.
Éric Zemmour a reconnu hier un geste fort inélégant. Marine Le Pen, invitée hier du grand jury RTL Le Figaro LCI, en a profité pour lui faire passer un message.
J'ai envie de lui dire que, après tout, on peut servir son pays de mille façons, dans mille fonctions autres que celles de candidat à la présidentielle. Je l'appelle à se rassembler. Encore une fois, je pense que l'exercice de candidat à la présidentielle est un exercice dans lequel il n'est pas à l'aise. n'apporte pas une plus-value supplémentaire à nos idées. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite.
Ce doigt d'honneur peut-il avoir des conséquences sur la popularité d'Éric Zemmour? 32-10, 32-1-0.
On peut entendre ce que disait M. Jadot, qui était l'invité ce matin d'RTL, mais dans le dernier sondage IFOP-JDD hier, je rappelle qu'Éric Zemmour, il est encore à 14-15, ce qui est quand même très très haut. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir 14 ou 15%, et Yves Jadot, il n'est qu'à 7.
Yannick.
Donc, Yves, j'ai dit, et c'est Yannick Jadot, pardonnez-moi. Yannick Jadot, vous voyez, j'ai du mal avec son prénom, mais c'est Yannick Jadot, qu'il s'intéresse aussi forcément à sa campagne et pourquoi pas de convaincre des électeurs, parce que c'est les électeurs au bout du compte qui décident. Nous sommes avec Christian. Bonjour Christian.
Bonjour Monsieur Plot, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Monsieur Jean-Pierre Pernaud s'il est encore dans vos
bureaux. Il est en train de partir pour tout vous dire, il a quitté le studio mais on lui transmettra évidemment, il doit nous entendre dans les couloirs, il doit entendre votre bonjour. Que voulez-vous nous dire sur le geste de Zemmour ?
Eh bien écoutez Monsieur Plot, j'aimerais quand même parler juste une seconde du cancer. Vous n'avez pas parlé des dons qu'on pourrait faire pour le cancer et qui c'est très important pour les chercheurs, car les chercheurs en France sont très mal payés, contrairement à ce qu'on peut penser, et les dons pour le cancer, ça aiderait beaucoup à progresser encore.
Vous avez raison, vous avez parfaitement raison, et vous l'avez dit Christian, et je vous en remercie.
Alors, concernant Monsieur Zemmour, je suis intervenu auprès de vous il y a une quinzaine de jours, j'ai dit crûment, Monsieur Zemmour est un fou la merde. Il se fait qu'hier, il a encore mis le doigt dessus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je comprends.
Il me semble que M. Zemmour, il n'a rien à faire dans la politique. M. Zemmour, on ne fait pas ça quand on veut se présenter comme futur président de la République. Hein ? Faire un doigt d'honneur comme ça à quelqu'un, c'est une injure. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui veut se présenter. Et déjà, les paroles de M. Zemmour, comme l'a dit M. Jeannot, c'est vrai que M. Zemmour, depuis très longtemps, met le doigt dessus. Hein, il y a longtemps qu'il est contre tout. Il est contre tout.
Non, mais j'entends ce que vous dites, Christian, mais je le répète, c'est les électeurs qui décident. Les gens, manifestement, ont entendu, alors je ne sais pas s'ils vont continuer à l'écouter de la même manière, mais il y a quelque chose dans le discours d'Éric Zemmour qui est venu percuter la société française, puisqu'il a fait des mois de septembre et d'octobre avec des intentions de vote très, très élevées. Vous dites qu'il n'a rien à faire en politique, mais ce n'est pas vous qui décidez, vous voyez, c'est les gens qui décident. Si il se trouve qu'il y a 15% des gens qui votent pour lui ou qui ont envie de voter pour lui, bah c'est, on ne peut que le constater, on peut le regretter. Pourquoi pas ?
Oui.
Mais c'est effectivement, comme toujours, comme dans plein de métiers d'ailleurs, les métiers politiques, les métiers artistiques aussi, c'est le public qui décide.
Je suis bien d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui ont vu ces images à la télévision et qui l'ont entendu, vont voter ? Les gens qui sont déjà pas prêts pour voter, parce qu'il y a beaucoup d'abstentions, quand ils voient ça, ils se disent, mais si c'est des gens comme ça qui se présentent, où on va ? Mais où on va ?
Alors, Éric Zemmour n'est pas un professionnel. Éric Zemmour, Christian, n'est pas un professionnel de la polémique et sans dire qu'il en est un amateur, bah, il mesure aujourd'hui ce qu'est une campagne électorale. C'est un peu comme au poker, faut garder ses nerfs, faut tenir la distance, faut savoir peut-être passer son tour. Et Éric Zemmour, c'est un novice autour de la table et peut-être que ce doigt adressé à une femme qu'il provoquait illustre son manque d'expérience, en même temps qu'il dévoile son impulsivité. Et c'est jamais une bonne chose d'être impulsif lorsqu'on veut être président de la République, bien sûr.
Ah ça c'est sûr, il est certain que il a perdu son sang-froid là.
Hein. Ah oui. Vous savez, François Mitterrand disait la première qualité d'un homme politique, c'est l'indifférence.
Oui. Oui.
Donc c'est la devise de la reine d'Angleterre, never explain, never complain. C'est-à-dire que tu te fais insulter, bah tu dis rien, tu files. Non. Et lui, il montre, en plus, comment dire, pour ses adversaires, il montre qu'il est fragile. Parce qu'ils savent aujourd'hui où piquer.
Oui, mais vous savez, je pense que c'est surtout dans le... il a été pris dans le flot de tout ça. Vous savez, quand M. Sarkozy a dit pauvre con à quelqu'un, c'est pareil, il n'a pas dit...
Oui, mais je trouve que c'était pas... je sais que j'ai vu tout le week-end les deux incidents comparés. Je trouve qu'il y a quelque chose d'infiniment plus vulgaire dans le geste de Éric Zemmour. Quelque chose, en plus, il a ajouté, et je crois qu'il a dit, est bien profond, en plus.
S'il a dit ça, oui. Bon,
c'est en tout cas ce que rapportent les journalistes qui étaient présents.
Vous, hein.
Je trouve qu'il y a quelque chose de déplacé, de disgracieux, de vulgaire.
Complètement.
Qui, effectivement, ne le met pas en valeur. Ça, je pense qu'il a bien compris que c'était très dangereux. D'autant, par exemple, que s'il veut présenter sa candidature cette semaine, s'il fait un grand journal télévisé comme on lui prête cette intention, on va lui parler que de ça. C'est-à-dire que sa candidature est piégée, si j'ose dire, le lancement de sa candidature est piégé par un journaliste qui va lui dire en permanence, il y a deux jours, vous avez fait un doigt d'honneur. Donc je pense que ça sera un marqueur fort de sa campagne, Christian.
Ah mais ça va, non seulement ça va être un marqueur, mais j'espère qu'à la suite du...
Ah, là je vous entends plus, Christian, dans le Morbihan. Ah. Je vous ai perdu un moment.
Oh, c'est pas bien.
Bon, en tout cas, merci Christian, je vois que vous avez un certain âge, vous avez la troisième dose ?
J'ai la troisième dose, ma femme aussi, et j'espère que tout le monde se fera vacciner.
Bon, bah c'est bien, vous préparez Noël ?
Ah, bien sûr, je prépare Noël.
Vous avez déjà fait les cadeaux ?
Mes petits-enfants.
Vous avez déjà fait les cadeaux ?
J'ai déjà acheté des cadeaux, oui.
Qu'est-ce que vous m'offrez cette année ?
Oh, écoutez...
Parce que j'ai rien reçu l'année
humeur,
dernière, Christian.
Ma bonne humeur, ma bonne humeur.
écoutez, je crois que c'est Thierry Roland qui disait ça. Je lui disais, qu'est-ce que vous avez offert à votre épouse ? Il me disait, une poignée de main pour la bonne année. Ouais. Alors en fait, il disait ça et puis il la couvrait de cadeaux. Merci Christian, c'était vraiment un plaisir. Monsieur Jean-Alphonse Richard... qui est là sans... Ah si, vous avez l'écharpe.
Oui, le foulard.
Le foulard. Oui. Et c'est vrai que vous devez recevoir beaucoup d'écharpes à Noël, parce que je vous vois toujours avec...
Pour me faire écharper, c'est ça ?
Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous vois toujours avec des écharpes différentes et très belles, d'ailleurs.
Non, c'est pas moi, c'est sur mes deniers.
Vous êtes un collectionneur.
J'ai aucun cadeau.
Vous ne recevez jamais de cadeaux, les auditeurs ?
C'est pas très propice à recevoir des cadeaux. Peut-être de recevoir une tronçonneuse ou un pic à glace, je ne sais pas. Mais
ah, un pic à glace, ça me fait penser immédiatement à...
Évidemment.
À cette Charleston. Bon, le programme de 13h, de 14h30.
Eh bien, le programme, il est très simple. Je vais vous proposer aujourd'hui une équation, et parce que la justice ressemble parfois à Kafka. Vous allez voir, un homme est jugé trois fois pour un même meurtre. Il va être condamné pour ce meurtre, et puis finalement, au troisième procès, il va être acquitté, blanchi. Plus rien à faire contre lui. Deux ans après cet acquittement, l'ADN va le confondre dans ce meurtre. C'est-à-dire un nouvel élément. C'est-à-dire on va trouver une tache de sang qu'on n'avait pas repérée. Un nouvel élément. Puis il y aura des témoignages qui vont s'accumuler contre lui. Il est montré du doigt, et bien on ne peut plus le rattraper.
Ben oui, puisqu'on ne peut pas... C'est un Français.
Alors, c'est un Français, bien sûr, c'est l'affaire Jacques Maire, qui se passe pas très loin de Lunéville, dans l'est de la France. Que va-t-il se passer pour Jacques Maire, qui apparaît comme visé comme le coupable, le suspect numéro un ? Que va-t-il se passer ? Bien, je vous donne la réponse dans l'heure du crime, parce que l'affaire n'est pas restée là.
Il nous reste une petite minute, peut-être pour échanger avec notre ami Laurent, qui est là ? Laurent Tessier ?
Ah, moi-même, enchanté.
Mais je ne sais pas, je vois dans le studio, donc je me dis que vous vouliez...
Oui, parce qu'après 14h, vous pourrez réagir, si vous le souhaitez, à ce coup de gueule qui n'est pas passé inaperçu, celui du chanteur Patrick Bruel, en plein concert à Bruxelles jeudi dernier. Il en a profité pour rappeler à ses fans l'importance des gestes barrières et au passage lancer un tacle à celles et ceux qui ne sont pas vaccinés.
Merci de faire attention. Merci, parce que c'est grâce à ça qu'on est là, aujourd'hui. On a plus envie que ça s'arrête, on a envie que ça continue. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose et que ça continue. Donc voilà. Donc à l'occasion, allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se vacciner et qui commencent à nous saouler.
Allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se faire vacciner qu'ils commencent à nous saouler. Vous pouvez réagir au 3210 après 14h.
On a 20 secondes avec Monsieur Olivier. Votre week-end. Alors, parce que vous étiez dans une fête, invité par quelqu'un que vous ne connaissiez pas.
Exactement, et oui.
Et alors, ça s'est passé comment ?
Pascal, j'ai été désinvité de la soirée à laquelle j'avais pourtant été invité.
J'ai été désinvité avant même d'y aller.
Mais vous le faites. Mais on vous a passé un coup de fil pour dire ne viens pas.
Bah finalement c'est annulé. Donc après je.
Ah la soirée était
annulée. Oui, mais je n'y ai pas trop cru, franchement.
COVID. Ah oui, d'ailleurs c'est une soirée Covid. Non, mais je pensais que c'était vous qui aviez été désinvité et que la soirée avait eu lieu.
Mais écoutez, je pense que j'ai été désinvité. Je ne crois pas à cette raison, Pascal.
Non, moi j'y étais à cette soirée et ça n'a pas du tout été annulé.
Bon, dites-moi, mais alors donc du coup vous avez fait quoi, Olivier?
J'ai été au théâtre, Pascal, au théâtre.
Tout seul?
Non, avec un ami, j'étais au théâtre, voilà.
Bon, vous avez vu quoi?
Écoutez, j'ai été voir, Pascal, une pièce mise en scène par Laurent Baffy.
D'accord, voilà. Il savait même plus le nom de la pièce.
Non, je sais plus.
Il est 13h58, la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. RTL.
14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Le G7 réunit en urgence ses ministres de la Santé à Londres. Objectif, définir une stratégie commune pour lutter contre le nouveau variant Omicron. De très nombreux pays ont d'ores et déjà décidé de fermer leurs frontières. Si pour l'heure on ne connaît pas grand-chose de ce variant, Antoine Flahaut approuve ce principe de précaution. Écoutez, l'épidémiologiste, il était l'invité de RTL Midi.
Oui, on peut comprendre que les États réagissent assez rapidement, et c'est plutôt bien que les États réagissent rapidement, parce que l'expérience passée, en particulier celle du variant Delta, n'avait pas été très brillante concernant la réaction des États. Aucun gouvernement, je pense, n'a envie de voir pénétrer trop rapidement ce variant si jamais il s'avère qu'il est dangereux ou qu'il est beaucoup plus transmissible, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore du tout avéré. On ne sait pas encore grand-chose sur ce variant Omicron, hein, il faut le reconnaître.
L'Afrique du Sud a été détectée. Ce variant regrette le vent de panique et juge très triste, hein, je cite, les restrictions de voyage sur le continent. Manchester United a un nouvel entraîneur. C'est l'Allemand Ralf Rangnick qui va s'occuper des Mancuniens jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite, il aura comme rôle un rôle de conseiller pour les deux saisons suivantes. La météo, certaines régions ont la chance d'avoir le soleil cet après-midi. Ben, profitez. Demain, le temps sera couvert avec de la pluie au nord de la Seine. Des nuages et des averses de neige sont à prévoir en Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Dans les autres régions, pas de précipitations. Le ciel sera partagé entre nuages et soleil. Soleil qui l'emportera largement d'ailleurs de l'Aquitaine aux Alpes ainsi qu'à la Méditerranée. Les courses se déroulaient à Vincennes. Voici les résultats. Il fallait jouer le 12, le 2, le 9, le 16 et le 8. Le 12, le 2, le 9, le 16 et et le 8, il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et on n'a pas salué Dany, qui est à la réalisation aujourd'hui. Bonjour Dany.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Tout va bien?
Tout va très bien.
Nous parlons donc de Zemmour et du doigt d'honneur. Et nous sommes avec Gilles. Bonjour Gilles.
Bonjour Pascal. Bien longtemps que je ne vous ai parlé.
Mais bien, exactement. Cette voix cristalline que je reconnaîtrai entre toutes des âmes.
Ah, c'est vous me flattez, vous me flattez. Bon, le geste est disgracieux, mais je pense que quand on discute avec des gens qui se prétendent des grands défenseurs de la démocratie, tant que c'est leur vision à eux, il n'y avait pas tellement d'autres réponses. Disons qu'il a montré qu'il ne tendait pas la joue gauche. Alors le geste était déplacé, j'en conviens. Pour le reste, je suis pas certain qu'à sa place, j'aurais pas fait exactement la même chose. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il en aura tiré la leçon.
Oui,
et
mais vous voulez
la
pas être président de la République.
Et allez savoir. Quand je vois le bal des bras cassés, je me dis c'est difficile de faire pire. Hein.
C'est, oui, quoi. Il n'y a pas de rapport avec ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas astreint à peut-être un devoir de, de réserve, de dignité, je ne sais pas comment. Je vous assure, je pense qu'il doit être très ennuyé pour les raisons que je disais tout à l'heure.
Non, mais ça, c'est clair.
Parce que c'est pas très classe, quoi.
Mais il se fait éreinter de partout, donc en gros, il n'a pas grand-chose à perdre.
Et ben, pardonnez-moi, vous avez dit il se...
Je dis il se fait éreinter dans tous les sens. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à perdre.
Il se faisait pas éreinter par forcément par ceux qui étaient le public. Qui se fasse éreinter par l'espace médiatique...
La dame qui lui a fait un doigt d'honneur, c'était pas un signe d'amour. Hein.
Non mais qui se fasse éreinter par l'espace médiatique, j'ai envie de dire, c'est pas un problème pour Éric Zemmour. Depuis le départ, c'est le jeu. Qui se fasse éreinter par les antifas, qui sont pas non plus très nombreux, hein, il y avait parfois une petite cinquantaine de personnes simplement à Marseille. C'est pas non plus dangereux. Mais j'ai envie de dire qu'il se fasse éreinter par lui-même. Parce que c'est lui, moi je le connais un peu, Éric, et même assez bien, Éric Zemmour. Et souvent, le premier ennemi de Zemmour, c'est Zemmour.
Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et je pense que là, il a fait une erreur. D'abord, depuis le départ, je pense que je suis pas persuadé que ce soit une bonne aventure. qu'il met en place. C'est
il tente sa chance, il n'est pas le seul.
Mais chacun a sa place. C'est pas un professionnel, c'est un métier, la politique.
Bah, c'est peut-être ça le problème, justement.
Bah, vous êtes marrant, c'est un métier. Bah, c'est-à-dire qu'il était un polémiste, il pouvait influencer sur les idées. Je lui reconnais un mérite, d'ailleurs, dans cette campagne, c'est d'avoir mis sur la place publique des idées ou des remarques dont personne ne voulait trop parler.
Ah bah, bon. Ça, il a sorti ce qu'il y avait sous les tapis, et il est
maintenant,
clair qu'il y a plein de gens qui
je m'aperçois qu'il est tout seul. Il est tout seul, Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il devait être avec De Villiers. Il devait, Villiers vient pas. Il devait être avec Charles Gave. Charles Gave s'en va. Donc, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a que des jeunes, voire des très jeunes autour de lui. Ça manque d'expérience. Bon. Je suis pas sûr que ce soit à l'arrivée une bonne aventure. Mais bon.
Non, mais ça, si vous voulez, ça, c'est une autre histoire. En revanche, moi, je me dis, en tant qu'électeur, alors, je sais pas si je voterai pour lui ou pour un autre. En vrai, j'ai l'impression d'être devant un buffet de plats variés, en gros, sur la généralité.
Vous êtes Il est capable. Vous êtes
oui, je suis sévère parce que ça fait 40 ans qu'on est gouverné par des énarques, 2600 milliards de déficit, toutes des promesses jamais tenues. Étonnez-vous que les gens aient pu voter.
Bah, ils y vont voter. Pardonnez-moi, la dernière présidentielle, ils sont allés massivement.
Ouais, enfin, moi je crois que les gens ont plus confiance dans les hommes politiques et ils ont raison. Enfin, dans l'ensemble, ils ont raison parce que, en gros, c'est le festival
c'est
de la promesse.
C'est ce qu'avait dit Daniel Balavoine. Cette phrase-là, je voudrais qu'on la ressorte. C'est mot pour mot ce qu'avait dit Daniel Balavoine à François Mitterrand en 1981. Je crois que les gens n'ont plus du tout confiance en la politique et ils ont bien raison. La seule chose, peut-être
peu
de mémoire, je crois qu'il avait dit les jeunes. Vous voyez, vous dites les jeunes.
Je ne crois pas les jeunes.
On peut peut-être retrouver la phrase. Oui, Gilles.
Si vous voulez, la vision Zemmour, pas Zemmour, Zemmour a sorti de sous le tapis des trucs que beaucoup de gens auraient préféré le passer sous silence, et ça, c'est une
par
évidence.
Exemple.
L'excès d'immigration, le manque d'intégration, les dépenses publiques folles, enfin, on pourrait parler d'inefficacité, l'État est d'une globale inefficacité quand même. L'école, c'est pas extraordinaire, la justice traîne, sauf dans certains cas où là, elle devient TGV, ça manque d'effectifs partout et on dépense plus que les autres. Moi, je serais quand même amené, je suis électeur, je me dis, tous ces élites qui nous gouvernent, si c'est ça l'élite, bah, franchement, ils méritent mon pied dans les fesses.
Bon, Emmanuel Macron, c'était je cherche le pourcentage d'inscrits d'abstention. Vous avez quand même.
Je crois qu'il a fait 23%. Il a fait 23% au premier tour des inscrits, ce qui est pitoyable. Si on veut bien regarder, quand un président de la République est élu avec 23% des suffrages et passe au second tour avec 23% des suffrages, je dirais que ça donne pas une bonne idée de la politique. Mais bon, c'est un avis que je n'oblige personne à partager.
Oui, d'autant qu'il avait fait 24% des suffrages exprimés. Mais Chirac était en dessous. Hein.
Nicolas Sarkozy avait été en dessous.
Mais c'est vrai que l'important, c'est le principe de la démocratie. Vous êtes marrant. Moi.
Oui, mais dans ce cas-là, s'il y a une démocratie, tout le monde doit avoir le droit de parler. Il n'y a pas
tout le monde a le droit de parler. La preuve, c'est qu'Éric Zemmour, il y va. Éric Zemmour, il y va. Il fait 15%. Il n'est pas énarque. Il est journaliste.
C'est tout à fait vrai. C'est un énarque qui aurait voulu l'être et qui ne l'a pas été. Moi, ce que je vois, c'est que dans l'univers médiatique dont vous dites souvent du mal, et vous avez raison, il y a quand même un parti pris qui est assez marqué. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, quoi qu'ils disent, sont des gens bien. Même quand ce qu'ils font, c'est mal, c'est des gens bien parce qu'ils pensent bien, et puis il y a ceux qui ne pensent pas bien.
Bah, écoutez, la dernière élection présidentielle, vous avez Emmanuel Macron, il est énarque, vous l'avez dit, Marine Le Pen.
Elle ne l'est pas, d'ailleurs, elle n'est pas passée. Fillon s'est fait éreinter, pas énarque. Bon. Hollande, énarque.
Encore, c'est les gens qui votent, enfin, vous êtes marrant. On leur propose autre chose. Il y a Jean Lassalle, Philippe Poutou, Monsieur Asselineau, Madame Arco, Monsieur Cheminade. Il y avait il y avait une dizaine de candidats. Ils ont le choix, mais ce choix manifestement ne leur convient pas. Merci en tout cas. Allez Gilles, il a ça a coupé. Il vient de raccrocher. Il était pas content. Pourtant, ça se passait bien. Il y a beaucoup de témoignages sur la page Facebook suite à votre week-end. Les gens sont très très inquiets, cher Olivier. Je vous le dis comme je le pense. Je vois arriver des tonnes de messages. Des gens s'inquiètent désormais pour vous.
Merci Pascal.
Mais oui, mais vous dites merci, mais chérie s'inquiète de voir ces week-ends à répétition qui sont quand même des échecs.
C'est dramatique, je peux comprendre.
Voilà, qui sont des fiascos.
C'est le mot.
Donc, je ne sais pas ce qui va se passer à Noël, mais ce qu'il faut vous souhaiter. Mais là, je suis très très inquiet.
Beaucoup de choses.
On va parler du Ballon d'Or, peut-être, puisque c'est Messi, si j'ai bien compris. C'est Lionel Messi. À tout de suite.
Pascal Praud,
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous allons donc parler du Ballon d'Or avec Pascal Ferré.
Bonjour.
Bonjour Pascal et merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Il est partagé. On nous dit, la rumeur dit que c'est Lionel Messi. C'est vrai ou pas ?
Ah, il y a beaucoup de rumeurs hein, qui foisonnent depuis plusieurs jours. Un jour, c'est Lionel Messi. Le lendemain, c'est Lewandowski. C'est Benzema.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est davantage Messi. Ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est beaucoup Messi.
Il faut toujours se méfier des impressions parce que là, on va un peu au-delà des impressions. C'est 170 jurés qui ont voté. Et les résultats sont bien cachés, ils le resteront jusqu'à 20h30 ce soir.
Donc ça va être formidable parce que tous les amoureux du foot aiment le Ballon d'Or, c'est un moment, c'est vrai, on se souvient tous quand on était gosse, on achetait le France Foot, il y avait la grande interview, on collectionnait ces numéros un peu historiques, c'est un peu de notre enfance aussi le Ballon d'Or, c'est drôle d'ailleurs. Je vais vous proposer d'être avec Sarah, peut-être Pascal, parce que Sarah est une auditrice d'Avignon et souhaitait donner son avis sur le Ballon d'Or. Sarah, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous allez bien ?
Ça va, merci, et vous ?
Ça va très très bien. Alors, vous avez le rédacteur en chef de France Football avec vous, donc vous pouvez essayer, pourquoi pas, de lui soutirer des informations.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Moi, ce que je pense, et ce que surtout j'espère, puisque je suis une grande, grande fan de Karim Benzema, j'espère qu'enfin, on va récompenser une année pleine d'un joueur extraordinaire, et non pas un nom, tout simplement un nom, parce qu'on ne sait pas... Ça fait un peu cadeau surprise à chaque fois. Je pense que si c'était Messi, cette fois-ci, le Ballon d'Or perdrait, je dirais, un peu de sa crédibilité. Je ne vois pas en quel nom Messi pourrait toucher le Ballon d'Or, alors qu'il n'a gagné que la Copa América, qui n'est pas forcément un trophée le plus important. Le reste de la saison, il a été quand même assez terne, alors qu'un Karim Benzema, on l'a vu toute l'année au Real de Madrid, c'est lui qui porte le Real, c'est lui qui fait tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, ça serait dommage, et vraiment je pense que le Ballon d'Or perdrait vraiment de sa crédibilité si c'était le cas.
Honnêtement, Pascal Ferré va vous répondre, mais cette année, j'ai envie de dire que personne se distingue particulièrement, Pascal Ferré. Donc, dans ces cas-là, il y a peut-être primo sortant.
Alors, c'est vrai que cette année, il n'y a pas beaucoup de... il n'y avait pas de favoris, mais il y avait plus d'aider. Et Messi, Benzema, Lewandowski en font partie. Et après, notre auditrice parlait d'un palmarès vierge pour Lionel Messi qui a gagné la Copa. Après, Karim Benzema a gagné une Ligue des Nations. Voilà. Après, je ne suis pas en train de révéler ni d'être l'avocat de l'un ou de l'autre, mais une chose dont je suis sûr, c'est que le Ballon d'Or se porte parfaitement bien. Il suffit juste de voir, ne serait-ce qu'aujourd'hui, là, le nombre d'appels que je reçois, soit des intéressés, soit des clubs, soit des agents, pour s'assurer qu'il est très, 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 très attendu.
Je suis d'accord avec vous. Le Ballon d'Or reste un des grands moments de l'année footballistique. Et puis, c'est le seul trophée individuel pour un joueur. Et je peux vous dire qu'un joueur, s'il a le Ballon d'Or, ça change sa vie. Et Benzema, évidemment, s'il l'avait, ça changerait sa vie. Le dernier Ballon d'Or français, c'est Jean-Pierre Papin ? C'est Zidane, pardon.
C'est Zidane.
C'est évidemment Zidane. Il n'y a pas eu 50 ballons d'or français. Hein. Il y a eu Coppa, il y a eu Michel Platini, il y a eu Jean-Pierre Papin, il y a Zinedine Zidane, et j'en oublie pas, Jean-Pierre ?
Non. Et on attend le suivant.
Et on attend le suivant. Thierry Henry a été parfois en course pour l'avoir, mais il ne l'a jamais eu. Il est 14h16. Je vous remercie grandement, Pascal Ferré. 20h30 ce soir ?
20h30 sur la chaîne L'Équipe et samedi 4 décembre dans tous les kiosques France Football qui sera vendu avec L'Équipe.
Eh bien, merci à vous, Pascal. Et puis, bonne soirée. J'imagine qu'elle sera belle parce que lorsqu'on a la chance d'avoir un prix aussi prestigieux dans un journal, c'est pas si fréquent. C'est les grands ancêtres hein, de L'Équipe et de France Football. On peut se souvenir de Max Urbini, par exemple. Quand j'étais enfant, c'était Max Urbini qui dirigeait la rédaction de France Football que j'avais croisé d'ailleurs au début de ma carrière. Jean-Philippe Rétaquer, tous les grands anciens de L'Équipe. Merci Pascal.
Merci à vous.
Et Gérard Reynaud était au micro ce week-end de l'ami Christian Olivier dans Refait le match. La pause et on va terminer avec le ballon d'or, pourquoi pas, Jean-François nous attend.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Olivier, est-ce que vous êtes un passionné de football ?
Ah oui, j'aime bien le football, Pascal, bien sûr. Je supporte les Merluchons de Lorient. Les Merlus.
Les Merlus, pas les oui. Merluchons. Les Merlus. Mais pourquoi vous supportez les Lorientais alors que vous êtes un garçon de la Savoie ?
Parce que les premiers matchs de Ligue 1 que j'ai vus dans ma vie, c'était au Moustoir, au stade du Moustoir.
Ah, c'était stade l'été Valinma. Peut-être, c'était en vacances quand vous étiez sur la côte.
J'habitais tout petit en Bretagne, Pascal, c'est pour cette raison.
Et ouais. Alors, vous avez un joueur préféré
à Lorient, hein, je ne les connais plus, je les supporte, mais je. Bah, pour être très honnête, voilà, je ne les connais plus.
Allez. Bon, que nous dit-on sur les réseaux ?
Sur nos réseaux sociaux. Pour Christian, le ballon d'or doit revenir à Karim Benzema. C'est cette année ou jamais. On continue avec Elisabeth qui nous dit arrêtons de donner des ballons d'or à Messi, il en a déjà assez. Et pour terminer avec Antoine, c'est la cérémonie du ballon d'or que j'attends le plus depuis des années.
Est-ce que vous savez combien il a de ballons d'or déjà, Messi ?
Il en a 6.
6. Et ça sera le 7e peut-être. Ce soir, ce qui est un truc quand même absolument fou. Jean-François est là. Bonjour.
Oui, bonjour.
Jean-François, quel est votre sentiment ?
Alors moi, mon sentiment, c'est que c'est Karim Benzema qui le mérite. Et puis bon, il n'y a aucune contestation là-dessus. Parce que quand on parle du football au niveau mondial, on parle tout le temps du Real de Madrid. Et qu'est-ce qu'on dit quand on parle du Real de Madrid ? Benzema a encore fait des miracles. Il a encore marqué un but. Il a encore fait des passes décisives. Il a encore fait, c'est lui qui porte le Real de Madrid à bout de bras. Et c'est grâce à lui que le Real de Madrid aujourd'hui est ce qu'il est. Parce que c'est Benzema qui est le héros de Madrid. Et puis, sachant que Lewandowski, on n'en parle quasiment jamais parce que le Bayern, c'est fini. Il ne fait plus peur à personne. Et puis, Messi, quand il joue en équipe argentine, bah, on n'en parle jamais parce qu'il ne fait pas grand-chose non plus avec l'équipe nationale.
Bah, il a gagné la Copa América quand même.
Oui, mais pour les qualifications de la Coupe du Monde, quand on parle de lui, on parle plus de Di Maria ou on parle plus de d'autres joueurs que de lui. Et puis Benzema en équipe de France, vous avez vu les matchs qu'il fait, c'est quand même extraordinaire. On a battu l'Espagne, on a battu la Belgique, c'est un peu grâce à lui.
Sans doute, mais si par exemple l'équipe de France avait été championne d'Europe ou vice-championne d'Europe, les choses seraient différentes. Alors, elle est sortie quand même rapidement et dans les critères du Ballon d'Or, il y a le palmarès.
Mais imaginons qu'un Suisse rate un tir au but. Mmh. Bah, c'est la France qui est qualifiée, donc on ne peut pas juger un match sur un malheureux tir au but qui aurait pu tout changer. Ça avait été l'inverse.
On le juge, comment dire, dans les critères du Ballon d'Or, je le répète, il y a le palmarès de l'année. Et le palmarès de Benzema, c'est une Ligue des Nations. Il n'a pas été champion d'Espagne. Donc c'est un des paramètres. Moi, je trouve, pour tout vous dire, qu'effectivement, il n'y a pas un joueur cette année qui surclasse les autres. Et je suis un peu comme vous, ça m'ennuie au fond que ce soit encore Messi. Parce que ce n'est pas sa meilleure année. Et je l'aurais bien donné à Benzema. Mais en même temps, soyons honnêtes, Benzema fait une très bonne saison, même excellente saison. Mais il lui manque le supplément d'âme qui permet d'être ballon d'or. Et
le supplément d'âme. Le critère, je vais vous le donner, c'est que la National League, on bat la Belgique qui est numéro un mondial et on bat l'Espagne qui est une des meilleures équipes du monde. Donc qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
Bah écoutez, en tout cas, vos arguments sont convaincants. Ce dont j'ai peur, c'est que la rumeur donne Messi et j'ai l'impression que la rumeur de mes confrères de la presse footballistique sont généralement plutôt justes. C'est ça qui m'ennuie un peu.
Puis en Amérique du Sud, il faut savoir que les équipes là-bas sont moins fortes qu'en Europe. Quand on joue contre des équipes, le Venezuela ou je ne sais pas quelle équipe...
Il faut le dire vite aujourd'hui. Franchement, vous avez vu, il faut le dire vite. Hein, parce que
nous, on a quand même des équipes sud-américaines.
Bon, ben merci Jean-François, on va attendre 20h30 ce soir. Et puis là, on ne va pas attendre aussi longtemps pour avoir le débrief, puisque c'est M. Tessier qui revient pour ce débrief, le premier de la semaine du lundi et dernier jour du mois de novembre, non ? C'est l'avant-dernier jour du mois de novembre.
Exactement. Nous sommes le 29.
Demain, c'est le 30 novembre. Donc, c'est en revanche le premier lundi de l'Avent. Hier a commencé pour les catholiques l'Avent. Et c'était le dimanche de l'Avent, le premier, 4 semaines avant Noël. Et c'est donc le lundi aujourd'hui.
Dans 2 jours, j'ouvre mon calendrier de Noël avec les chocolats.
Eh bien oui, parce que vous êtes un païen. Mais si vous voulez, c'est d'abord une cérémonie, je vous le rappelle, chrétienne. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Il ne faut pas avoir peur du cancer. Jean-Pierre Pernaut était l'invité exceptionnel des auditeurs en la parole et il était là de bonne heure, dès midi.
Bonjour Jean-Pierre, il avait peur d'être en retard. C'est midi et demi, donc je lui ai dit venez, faire le teasing avec
mais
nous.
Mais c'est sympa, Pascal, de m'accueillir. Je viens m'imprégner de l'ambiance de RTL. J'ai un peu le temps maintenant à cette heure-ci.
L'ancien présentateur du journal de 13h de TF1 a annoncé la semaine dernière qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Jean-Pierre Pernaut est venu nous donner de ses nouvelles.
Mais je suis en pleine forme, enfin. J'exagère quand je dis ça parce qu'il faut garder le moral. C'est vrai que le cancer, c'est pas facile.
Et il a décidé de parler de la maladie pour une raison.
Mais j'en parle parce que ce cancer du poumon vient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé. Pendant toute ma vie, mon frangin qui était médecin m'engueulait en me disant « Jean-Pierre, arrête de fumer ». Tous les gens dans mon entourage professionnel à TF1 et ailleurs « Jean-Pierre, arrête de fumer, c'est pas raisonnable ». Mais non. Donc ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben, je suis tombé dans le piège, j'ai pas arrêté de fumer et je le dis dans ma petite vidéo, j'ai été con, tout simplement.
Et au 3210, vous avez pu échanger avec Jean-Pierre Pernaut, comme Thierry.
Jean-Pierre, je me permets au nom de sûrement de millions de personnes de vous dire merci. Merci parce que vous utilisez votre notoriété pour mettre en avant cette maladie, qui est souvent un sujet tabou.
Pascaline, atteinte d'un cancer très rare, a tenu à nous appeler au standard.
On est des inconnus et c'est vrai que c'est très agréable que les personnes qui ont une notoriété soit là pour nous sortir un peu de l'anonymat. Moi, je suis actrice de ma maladie, je me suis pas laissée abattre.
Donc, si vous deviez retenir un message de Jean-Pierre Pernaut,
de dire aux gens d'essayer d'arrêter de fumer.
Mais Jean-Pierre est venu aussi avec une autre information.
J'ai la grande joie. On peut être malade, avoir une maladie et continuer à vivre et faire des plein de choses. J'ai la joie immense et la fierté d'avoir été sollicité par le comité Miss France et par Sylvie Tellier pour être président du jury de la prochaine élection de Miss France qui aura lieu à Caen le 11 décembre.
Sinon, dans le monde des auditeurs, ont la parole. Christian vous a rebaptisé, Pascal.
Bonjour, monsieur Plo. Bonjour à tous les auditeurs.
Comment avez-vous dit, Christian?
Que voulez-vous dire sur le geste de Zemmour?
Eh bien, écoutez, monsieur Plo.
Monsieur Plo, c'est bien noté. Que se passe-t-il sinon dans le monde merveilleux d'Olivier, monsieur Facebook, monsieur Boubouk?
L'instant culture de monsieur Boubouk.
Ah, il nous avait vendu du rêve vendredi avec une magnifique soirée ce week-end.
Bah finalement, c'est annulé. Oh. Donc après, je...
Ah, la soirée était annulée.
Oui, mais je n'y ai pas trop cru, franchement.
Mais nous a-t-il donné la bonne information? Heureusement, Jean-Alphonse Richard est là pour nous.
J'y étais à cette soirée et ça n'a pas du tout été annulé.
Bon. C'est pas de bol. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui résume du coup la vie sentimentale de monsieur Boubouk.
Ram, 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 ramé.
Monsieur Richard, vous vous ramez pas?
Non, on essaie.
Tout va bien.
On reste dans le canoë.
Exactement. Hein, bon.
Dans l'heure du crime, avec aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui a été acquitté et que l'ADN va encore montrer du doigt 2 ans après son acquittement?
Bah, vous allez nous dire.
Bah, non, je vais vous le dire. C'est pas si simple.
À tout de suite.